C'est une merveille de la nature. Et au-delà de ce concept même et du côté extrêmement esthétique d'un grand fossile de dinosaure, c'est l'extinction d'une espèce entière qui dominait absolument la planète et qui, très rapidement, a disparu de la surface de la Terre.
La paléontologie est la science qui étudie les êtres vivants disparus. Et pendant très longtemps, les dinosaures en ont été les parents pauvres, objet d'études pour hyper spécialistes. Les dinosaures ont disparu de la surface du globe il y a 66 millions d'années. La taille impressionnante des plus grands et ce qu'on supposait de leur mode de vie exerçait bien une certaine fascination, mais pas de véritable passion. Et puis en 1993, Steven Spielberg adapte le roman fantastique de Michael Crichton, Jurassic Park. Le film reçoit 3 Oscars. Pour un budget de 63 millions de dollars, il en rapporte 912.
Et je consacrais les 5 dernières années à la création d'une sorte de réserve biologique.
C'était le début de l'engouement du grand public pour ces Deinosauros, les terribles lézards, en grec ancien. Un engouement qui n'a cessé de progresser, et les fossiles de dinosaures sont devenus des objets de convoitise. Des acheteurs privés et fortunés raflent ceux qui passent sous les marteaux des commissaires-priseurs, l'emportant souvent sur les acheteurs des institutions publiques, musées ou universités, où les chercheurs s'arrachent les cheveux.
On n'a pas du tout les moyens de rivaliser, à moins de faire appel à des mécènes qui ont de l'argent et qui l'achèteraient à notre place et qui nous le donneraient ensuite. Ça n'arrive pas, en tout cas nous, ça ne nous est pas arrivé pour des dinosaures. Le budget d'acquisition, peut-être quelques dizaines de milliers d'euros, et donc voilà, on a d'autres choses aussi à acquérir que des dinosaures.
Certains acquéreurs sont prêts à dépenser des fortunes pour pouvoir mettre un squelette de dinosaure dans leur jardin. Les enchères atteignent couramment plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plusieurs millions. La dernière grande vente en France a eu lieu en octobre dernier à Drouot. Julie Pietri y était. C'est là que commence son reportage. Dinosaure Jurassic Cash, c'est un reportage de Julie Pietri. Prise de son Yann Fressy et Benjamin Thiot.
Interception. Le magazine de reportage de la rédaction.
Mesdames et messieurs, bienvenue à Drouot. Dans quelques secondes, je donnerai la parole à notre expert Jacopo Briano. Mais avant cela, nous allons vous passer un petit film décrivant partiellement le lot et sa découverte.
Séjour de vente aux enchères à Drouot, nous sommes dans le centre de Paris. Aujourd'hui, c'est un tricératops qui a été baptisé Big John qui va être vendu aux enchères. Il est vieux de 66 millions d'années, il fait 7 mètres de long, il fait 3 mètres de haut et il est présenté comme un spécimen exceptionnel, le plus grand tricératops jamais découvert au monde. Il vient des États-Unis, il vient du Dakota du Sud.
Il s'agit d'un spécimen de Triceratops auridus de la formation de Hell Creek, complet à 60% avec un crâne complet à 75%, provenant de ce gisement très renommé de Hell Creek. C'est vraiment le tout dernier moment de l'âge d'or des dinosaures avant leur disparition.
Aujourd'hui, les espoirs placés en Big John sont énormes. Il est estimé entre 1 200 000 et 1 500 000 euros.
Et nous débutons les enchères directement à 1 million d'euros. 1
million 100.
1 million 100. 1 million 200.
1 million 200.
300. 400. 500. 600. 700. 2 millions. 2 millions, c'est moi, c'est pas ici. 200. 300. 400.
Derrière cette vente aujourd'hui, il y a la maison Pinoche et Jiquello qui s'y connaît un petit peu en la matière parce qu'ils ont déjà organisé des enchères millionnaires. Deux prédateurs, deux allosaures en 2018 et en 2020, 1,4 million et 3 millions. Et puis un diplodocus aussi, un énorme herbivore, long cou, long queue, ça c'était 1,4 million en 2018.
500, 600, 800.
4 millions 200 000 300 000
for 3 taken for
400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 spoons for four against you. Would you like to do it?
Yes, yes, yes.
It's
a Hello? Yes.
4,500.
Ici, il y a 4,500,000 de poids téléphone.
600 4,600,000.
4,600,000.
700,000.
800,000. Ici, au quatrième rang. 5,000,000. 5,200,000. Que dit-on à 5,200,000? 5,300,000. 500,000. Voilà. J'adjuge à 5,500,000. Ici, c'est vu.
Chance, l'homme qui a acheté Big John est dans la salle, c'est assez rare. Dwayne Rivers est américain, il a longtemps occupé un poste haut placé chez Disney et il dit avoir enchéri pour un proche.
C'est pour un collectionneur américain, exact.
Qui est-ce ?
Good question.
Bonne question.
Mais ami, good friend of mine.
Un bon ami à moi.
Un homme ou une femme ?
Quelqu'un de formidable. Comme vous avez pu le voir, ce dinosaure a établi de nombreux records. C'est l'un des plus grands et l'un des plus intacts jamais retrouvés. On ne voulait pas laisser passer cette occasion. Big John a été acquis par un collectionneur américain qui est absolument ravi à l'idée de pouvoir profiter d'une pièce comme celle-ci à des fins personnelles. C'est une pièce dont nous sommes tombés amoureux tout de suite dès que nous l'avons vue. Alors être capable de participer à la préservation de ce dinosaure trouvé aux États-Unis dans le Dakota du Sud est aussi quelque chose d'extraordinaire.
J'adjuge à 5,500,000. Ici, c'est vu.
Alexandre Gicquello, vous étiez au marteau tout à l'heure, c'est vous. On entend votre marteau à la fin conclure cette vente.
J'avais cette chance, oui.
Est-ce que vous pouvez rappeler le prix de vente ?
6,6 millions avec les frais.
Jacopo Briano, donc vous êtes l'expert.
Oui,
ça exactement. Veut dire que peut-être vous pouvez nous raconter déjà comment ce dinosaure est arrivé dans cette salle aujourd'hui.
Alors là, c'est un dinosaure qui a été découvert en 2014. Excavé entre 2014 et 2015.
Et ce marché des dinosaures, entre guillemets, il existe depuis combien de temps ?
Les marchés du dinosaure, ça existe pour les dinosaures américains depuis la moitié du 19e siècle. Et c'est quoi qui l'a fait découvrir une telle quantité de dinosaures ? C'était le développement du chemin de fer. C'était la conquête du ouest des États-Unis. Et c'est le premier moment que des géologues, des spécialistes ils voyageaient avec les chantiers du chemin de fer pour établir mais vraiment les premières cartes géologiques du terrain. Donc il y avait des explorateurs, des naturalistes, des géologues qui ont rencontré des restes incroyables, des animaux que personne ne comprenait qu'est-ce que c'était à l'époque. Et depuis le moment que c'était clair qu'il y avait cet monstre préhistorique dans les gisements, l'intérêt, il est explosé.
Et l'engouement des acheteurs, le fait que ça atteigne des prix aussi élevés, ça date de quand ?
Alors, l'engouement du public en général a toujours été énorme. Mais il y a une différence entre public et acheteur. Pour cette vente, on s'est rapidement rendu compte qu'on avait des demandes du monde entier avec de nouveaux clients qu'on ne connaissait absolument pas. Et donc, nous avions demandé un dépôt de garantie de 200 000 euros si une personne souhaitait s'inscrire à la vente, ce qui est quand même sérieux. Et on avait 11 personnes aujourd'hui qui avaient déposé 200 000 euros pour la vente.
Mais aussi, un détail que moi j'ai remarqué, c'est qu'il y a aussi des clients, au moins une, avec lesquels on est dans ce discours avec lui que c'est intéressant d'acheter un dinosaure, que ça peut être un bon achat, que ça peut être une bonne idée. Donc je pense que là, c'est vraiment la maturité du marché.
Pourquoi c'est une bonne idée ?
Alors, l'histoire naturelle, c'est un sujet qui fascine tout le monde. Depuis qu'on est être humain, on était fasciné par l'histoire naturelle. Parce que même
enfants ramassent des cailloux sur la plage.
Exactement. Comme l'homme primitif ramassait des coquillages sur la plage, c'est vraiment dans notre ADN. Mais ce n'est pas exactement la même chose d'être en face d'un dinosaure, pouvoir toucher un dinosaure et pouvoir être propriétaire d'un dinosaure.
Alexandre Gicquello, si je vous pose la même question, quel intérêt ? Enfin, ça veut dire que ça devient une œuvre d'art comme une autre ou c'est de l'art ?
Justement, ce n'est pas de l'art. Parce que l'art, c'est fait par la main de l'homme. Là, c'est encore plus fort, je dirais, parce que c'est une merveille de la nature. Et au-delà de ce concept même et du côté extrêmement esthétique d'un grand fossile de dinosaure, c'est l'extinction d'une espèce entière qui dominait absolument la planète et qui, très rapidement, a disparu de la surface de la Terre. Et moi, ça me touche personnellement. Après, il y a une troisième dimension qui est une dimension du domaine du cerveau reptilien, je pense, qu'on voit particulièrement avec les grands carnivores. 100% des visiteurs nous disent « Ah, j'aurais pas aimé me trouver en face de cette bête-là. » Il y a un danger. Et le danger fascine, évidemment, la peur fascine, et donc il y a ce cocktail entre l'intérêt scientifique, intellectuel, l'émotion esthétique et l'émotion même viscérale, exactement. Et aucun de nos acheteurs, pour l'instant, ont l'intention de spéculer. C'est uniquement là pour vraiment leur fascination personnelle. Donc pour nous, c'est formidable parce qu'on a des clients très importants et tout à fait nouveaux avec lesquels maintenant on a une relation privilégiée.
Mais justement, il y a un profil type pour les acheteurs de dinosaures ?
Non, il n'y a pas de profil type. En revanche, il y a des caractéristiques qui sont parfois répétées, c'est-à-dire qu'ils sont souvent plutôt jeunes. Ils ont tous vu Jurassic Park et ils sont souvent issus des nouvelles technologies ou de la finance avec des fortunes qui se constituent très rapidement.
Vous avez vendu combien de dinosaures complets pour l'instant ?
Ici, à Drouot, 4.
Donc il y a complets. Deux allosaures, les prédateurs ?
Deux allosaures, une diplodocus et une triceratops. Merci beaucoup, merci à tous les deux. On se voit en Italie aussi. Hein. Ciao.
Big John, le plus grand tricératops jamais exhumé, qui vient donc d'être vendu à Drouot pour un prix dépassant toutes les espérances, vivait dans le Dakota du Sud, aux États-Unis. Et c'est là que travaille Peter Larson, l'un des paléontologues commerciaux les plus célèbres, un personnage par ailleurs très controversé. Ses clients sont des particuliers et des musées. Il a notamment reconstitué le squelette de Sioux, le plus complet des tyrannosaures connus à l'époque. En 1997, Sioux a été acheté plus de 8 millions de dollars par le Musée Field de Chicago grâce au mécénat de grandes entreprises. C'est à partir de là que la folie des enchères a commencé. Peter Larson a accepté de montrer l'un de ses sites de recherche à Julie Pietri.
C'est un paysage complètement aride avec des plaines qui sont encore vertes, mais ça ne va pas durer. Au loin des
barres rocheuses. C'est une belle journée. Les Indiens Lakota appelaient ces terres les Badlands. Les trappeurs français, vos lointains parents, les appelaient
mauvaise terre.
Pourquoi ? Parce que c'est très sec ?
Non.
Parce que c'est dur à traverser. Vous allez voir pourquoi. En fait, le sol est plutôt bon dans les Badlands, mais avec la pluie, la terre est lessivée. Ça crée de méchantes ravines partout. Si vous avez une remorque ou même un cheval, c'est difficile de traverser. Dans pas mal d'endroits, il faut tracer des chemins.
Si quelque chose m'arrive, je laisse toujours les clés à cet endroit. Voyez ça ? Ce truc rouge, rouillé, qui dépasse de la prairie, c'est un point d'eau potable.
Pourquoi c'est dangereux ici ? Why it's dangerous to be here with you ?
Non.
Mais
je veux dire, la vie est bizarre. Je suis en super bonne santé, mais si je tombe dans un ravin, que je me casse la jambe, vous devrez marcher seul pour aller chercher de l'aide. Vous savez, vous ne devez jamais être seul sur le terrain, ce n'est pas prudent.
L'homme que nous accompagnons aujourd'hui sur le terrain, c'est Peter Larson, qui a lancé son business en 1974, donc... Il est à quelques pas de nous, là, grand sac à dos, avec à l'intérieur pioche, sac en plastique pour récupérer ce qu'il trouve, et des couteaux à la ceinture. Peter Larsen, c'est l'un des patrons aujourd'hui de ce que l'on appelle la paléontologie commerciale. Avec son équipe, il a contribué à déterrer une douzaine de tyrannosaures. C'est vraiment énorme dans le métier. Personne n'a réussi à faire ça pour l'instant.
Nous
sommes dans le nord-ouest du Nebraska pour fouiller l'un de mes sites de fossiles préférés. Nous sommes au fond d'un ravin, le sol est très blanc et très friable. Si je prends ma pioche et que je la sors de mon sac à dos, je peux creuser un trou assez facilement ici. Mais si je le fais à d'autres endroits, comme peut-être ici, ça va devenir dur assez rapidement. Mais ça préserve assez bien les fossiles. Ici, je vous garantis que nous allons trouver quelque chose de cool. Tiens, juste ici, regarde ça.
Oh, c'est incroyable, on vient de trouver des dents de vieux chats, on va dire ça comme ça, de plusieurs millions d'années.
35 millions d'années. En fait, c'est un chien, ou plutôt un animal dans la lignée de nos chiens loups, renards. Ça, c'est la première molaire. Et la dernière prémolaire. D'un petit carnivore de la taille d'un renard. C'est cool, non?
C'est ça, en fait, d'être un chasseur de fossiles. Il n'y a qu'à se pencher.
Oui.
So, let's see if we can find something cool here.
Alors, voyons si on peut trouver quelque chose de cool ici.
There's turtle bone everywhere.
Il y a des os de tortue partout.
And this is a baby turtle.
Et ça, c'est un bébé tortue qui ressort.
Comment vous voyez ça? Parce qu'on dirait juste un petit bout de boue séchée qui dépasse un peu du reste.
Ça, c'est la deuxième partie. Donc ici, je vais juste coller avec de la glu. Je ne veux pas que les pièces bougent. C'est une petite tortue très mignonne qui venait d'éclore de l'œuf. Donc nos outils, ce sont des petits couteaux et des brosses, les mêmes que celles utilisées par les archéologues. Juste au cas où, je ramasse tout ce qui pourrait faire partie de cette tortue et on nettoiera ça ensuite au laboratoire.
Donc là, il est en train de gratter avec le couteau qu'il a toujours à la ceinture.
Il y a plein de tortues ici. Mais les bébés tortues sont mes favorites. Elles sont rares. Celle-là vient juste d'être mise à jour par la dernière pluie après avoir été dans le sol durant 35 millions d'années.
Et ça, Peter, ça se vend aussi, des petites tortues comme ça?
Oh, yes.
Ah oui. Cette tortue pourrait valoir 2 000 $. Donc, vous voyez, ça vaut la peine de passer un peu de temps dessus. Si elle est vraiment bien, on la garde.
Peter, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous êtes passé de la passion d'enfant au business?
J'ai toujours su, quand j'étais jeune, que j'aimais les fossiles et que je voulais travailler là-dedans. Je suis allé à l'école pour devenir géologue. Mais il n'y a pas beaucoup d'emplois dans les musées. Alors quand j'étais à l'université avec 3 amis, nous avons vu ces gens qui vendaient des fossiles et surtout des spécimens de minéraux, de cristaux, de roches. Et j'ai pensé, c'est cool. J'ai lancé mon entreprise en 1974. Et en 76, un ami a trouvé une tortue géante. Un musée viennois est venu nous voir et nous a demandé « Vous pourriez nous avoir un dinosaure ?» Nous n'avions jamais cherché de dinosaure. Je ne pensais même pas qu'on pouvait en trouver, mais j'ai dit « Bien sûr !» L'optimisme de la jeunesse. Donc nous avons cherché pendant quelques années. Nous avons trouvé une zone à dinosaures. Et à partir de là, nous avons vendu 10 squelettes provenant de cette seule carrière, plus beaucoup d'autres provenant d'autres sites.
Et quels sont les dinosaures que vous avez vendus, vous, le plus cher?
Si vous avez un T-Rex, avec un bon squelette, il vaut plusieurs millions de dollars.
Et le propriétaire des terres prend un pourcentage.
Est-ce que ça veut dire que vous êtes un homme riche aujourd'hui?
Il n'y a que quelques personnes qui se sont enrichies grâce aux fossiles. Je m'en fiche tant que j'ai assez d'argent pour payer mes gens, collecter des fossiles, construire notre musée.
Peter, pourquoi vous collectez les petites dents comme ça? Ça sert à quoi?
On les récupère parce que ce sont des objets parfaits pour que les enfants commencent leur collection de fossiles. Et parce qu'ils sont assez abondants, nous pouvons les vendre à un prix très bas. On y pose une étiquette scientifique, on les met dans de petits sacs en plastique et nous les vendons dans notre boutique de cadeaux ou nous les vendons à d'autres musées qui ont des boutiques de cadeaux. Comme ça, vous pouvez posséder des dents de mammifères de 35 millions d'années pour quelques dollars. C'est plutôt cool.
Et pour les fossiles de dinosaures, c'est possible pour des enfants d'en avoir à bas coût?
Oh, yeah. Always expensive. No, we sell
on les vend en petites pièces et on fait la même chose. On les emballe, on met une étiquette dessus. Et donc les enfants peuvent avoir quelque chose qui vient d'un dinosaure, ce qui est plutôt cool.
For a few dollars too.
Ah oui, quelques dollars.
Plus, very selfish.
De manière très égoïste, cela préserve nos emplois. Nous devons gagner notre vie comme tout le monde.
We have to earn a living just like anybody.
Since I was a child, tried to be what I am not. Lied and I've enjoyed it all my life.
It's a nice day.
Big head, no cattle. Big head, no brain. Big snake.
On va retrouver Peter Larsen maintenant dans son musée, dans le Black Hills Institute. Donc là, on est dans la salle principale. Il y a des tyrannosaures partout. Il y a des reconstitutions de Sue, de Stan, qui sont des dinosaures qui ont été vendus aux enchères extrêmement chères ces dernières années. Des os géants qu'on peut toucher aussi.
Black Hills Institute does...
Le Black Hills Institute travaille pour des musées du monde entier. Si vous allez dans un grand musée dans presque tous les pays, vous verrez des choses de nous. Nous avons des fossiles originaux que nous vendons au musée, mais aussi des reproductions moulées de fossiles. Allez, on rentre dans le musée, faire une petite visite.
A model of what Sue's excavation site looked like.
Voici une maquette du site d'excavation de Sue.
Find a cause of death.
Pour la plupart des animaux, vous ne pouvez pas identifier la cause de leur mort. Des cold cases trop froids, comme le dit la police. Mais dans ce cas particulier, nous pensons que Sue a été tué par un autre T-Rex. Il y a des dents cassées au niveau du crâne. On pense qu'elle a été décapitée. Et le seul animal assez grand pour faire ça, c'est le T-Rex.
Vous avez parlé de Sue, ça a été une belle découverte et aussi un problème pour vous.
Sue
a été notre premier Tyrannosaurus Rex. Depuis, nous avons collecté 11 autres spécimens importants.
Et donc,
j'ai fait de la prison. J'ai purgé une peine de 24 mois pour avoir omis de remplir des formulaires. Au départ, nous avons recueilli Sue avec la permission du propriétaire, Maurice Williams. Et le gouvernement fédéral est venu avec un mandat de perquisition disant que nous l'avions volé sur une terre fédérale. Bien sûr, c'était absolument faux, c'était un terrain privé. Et au final, ils l'ont rendu à Maurice Williams. Quand ils l'ont saisi, ils ont dit « On le saisit parce que nous savons que vous allez le mettre aux enchères, au plus offrant. » Alors que bien sûr, il serait resté ici, dans ce musée. Et fait intéressant, le gouvernement fédéral a rendu le T-Rex à Maurice Williams qui a dit « Je veux que vous le mettiez aux enchères, au plus offrant. » Et c'est ce qu'ils ont fait. Aux enchères, Sue a été acheté par le Field Museum 8,36 millions d'euros. Alors que Stan, le T-Rex, a été vendu, il y a un peu plus d'un an, 31,8 millions de dollars, ce qui est un chiffre stupéfiant. Mais si vous considérez le prix des œuvres d'art, je pense que maintenant, les fossiles sont enfin évalués à leur juste prix. Et vous savez, ce sont des œuvres d'art. Quand vous mettez tout ce talent artistique à nettoyer, préparer ces os et à les monter en un squelette crédible, vous voyez, je pense que ça mérite un certain prix. Ceux qui sont contrariés qu'ils rapportent autant devraient être heureux parce que c'est une reconnaissance de ce que la paléontologie signifie pour l'humanité. Oui, on peut donner une valeur monétaire à ça, comme on donne une valeur monétaire à un litre de lait. On vit dans une société capitaliste. La Joconde est probablement le tableau le plus précieux au monde. Et c'est pour ça que les gens vont le voir. C'est un trésor. Vous savez, les gens vont dans les musées pour apprendre, mais aussi pour voir des trésors. Les dinosaures sont des trésors et nous devons les préserver et ne pas les laisser gisants au sol. Oui, il y a des fossiles vendus à des particuliers, mais ce n'est pas grave. Tous les musées d'histoire naturelle du monde ont été créés par des collectionneurs privés. Je crois vraiment que c'est une bonne chose pour la paléontologie.
Peter Larson a bien été traduit en justice en 1996 dans l'affaire de la découverte de Sioux. Mais c'est dans un autre procès, la même année, notamment pour un vol de fossiles sur des terres fédérales, qu'il a été condamné à 2 ans de prison. Ce qui n'a pas arrangé l'image des paléontologues commerciaux. Mais même aux États-Unis, on trouve des spécialistes dont le profit n'est pas la seule boussole.
Nous sommes sur le campus de South Dakota Mines. Nous sommes à Rapid City, à une trentaine de minutes en voiture à peu près de Hill City, de l'Institut des Black Hills de Peter Larson. Et si nous avons fait ce chemin, c'est pour rencontrer deux paléontologues de l'université, Darin Pagnac et Nathan Fox.
Voyons voir, nous pouvons sûrement faire l'interview ici. Je pense que l'acoustique sera meilleure dans cette pièce. C'est ici que j'enseigne mes étudiants. Mon nom est Darin Pagnac. Je suis le conservateur des fossiles de vertébrés ici, au musée de géologie.
Nathan Fox, je suis le directeur associé du musée de géologie et le responsable des collections.
Une des questions qu'on se pose en venant ici, c'est est-ce que l'intérêt croissant pour les dinosaures et les ventes aussi à des prix exceptionnels a un impact sur votre travail aujourd'hui ?
Very much so.
Yes, oui,
it does
beaucoup.
Have an impact on our work. Now that we know
maintenant que nous savons que les fossiles ont une valeur monétaire potentiellement élevée, ça rend les propriétaires terriens qui peuvent avoir des fossiles sur leur terre plus enclins à vouloir les vendre plutôt que les donner au musée. Vous savez, si un éleveur peut obtenir 6 millions d'euros pour un dinosaure au lieu de ne rien obtenir du tout en le donnant à un musée, je ne peux pas vraiment le blâmer de vouloir se mettre 6 millions d'euros dans la poche. Et donc oui, ce que nous constatons, c'est que de nombreux spécimens sont perdus pour la science, car une fois qu'ils sont dans les mains des collectionneurs privés, les scientifiques ne peuvent plus y accéder.
Nathan Fox,
c'est ce que vous avez dit. Oui, il y a aussi un problème de gestion pour les musées, car ces dinosaures et les autres fossiles ont une valeur pécuniaire. Nous devons être conscients de ça pour leur sécurité. Il faut s'assurer que les collections sont sécurisées, mais il y a aussi les informations que l'on donne, comme la localisation de l'endroit où ils ont été trouvés. Ça doit être contrôlé, car si ces sites sont accessibles au public, le risque de braconnage augmente. Un autre défi, c'est qu'il est très difficile de vérifier la provenance et donc d'identifier les pièces braconnées sur les terres fédérales. À moins qu'un fossile soit très spécifique, qu'il ne se trouve que sur une petite partie du territoire, il est difficile de confirmer les informations que le vendeur affiche sur le spécimen. Il peut donc dire qu'il l'a acheté à un vendeur privé, sur des terres privées. Il est difficile de prouver que c'est vrai ou non. C'est un autre des défis que nous devons relever pour lutter contre le braconnage de fossiles.
Et comment vous l'expliquez ?
Les années 1990
ont été une période où nous avons vraiment vu ce changement. Oui, la paléontologie commerciale était un problème avant les années 1990. Les paléontologues commerciaux s'engageaient déjà dans la vente de fossiles. Mais les années 90, entre les films Jurassic Park et la vente de Sioux à 8,6 millions de dollars, ont vraiment suscité l'intérêt du public.
Est-ce qu'il y a un conflit depuis ce moment entre les paléontologues ?
Il y a toujours eu un conflit entre les marchands de fossiles et les scientifiques. Simplement parce que nos motivations sont très différentes. Il y a toujours eu un conflit. Sioux a peut-être exacerber les choses, élever les choses un peu. Mais il y a toujours eu un conflit entre les marchands de fossiles et les paléontologues universitaires.
Pendant la visite d'Arin Pagnac, il a pensé à un propriétaire de ranch, un fermier, un cow-boy, comme il dit, qui vit à une trentaine de minutes d'ici. Et visiblement, son sol est riche en fossiles. On va aller voir ça.
Comment s'appelle l'homme qu'on va rencontrer ?
Kenny Brown.
Kenny Brown.
Kenny Brown.
Kenny Brown.
Yep.
Ça, c'est le nom du fermier. Ouais. Il est fermier ?
Rancher.
C'est un rancher. Il élevait du bétail. Et ce qu'on appelle ici des chevaux de coupe. Ce sont des chevaux qui sont dressés pour isoler une vache du reste du troupeau. Il est retraité maintenant. Il aide des jeunes. Il leur apprend à monter à cheval et les emmène en compétition.
Et il a des terres très riches. And he has some lands which are rich with fossils.
Very rich.
Très riche. Où est votre voiture?
This is it.
C'est celle-là?
Okay. Let's go.
Forward at the light.
Ok, je crois qu'on arrive. Pas ce croisement-là, continuez.
Ah oui, il y a un ptérodactyle. Il y a un ptérodactyle sur son portail.
Oui, et l'autre, c'est un plésiosaure, un reptile nageur. On les a trouvés tous les deux sur son ranch. Vous pouvez vous garer là. Ah, le voilà.
Hi. Hello, hi. You are Kenny?
Yeah, I'm Kenny Brown.
Oui, Kenny Brown.
Nice to meet you.
Yeah, where are you?
D'où venez-vous?
France.
Really?
Yes.
Vraiment.
Long way from here.
C'est loin, loin, loin d'ici.
Yeah.
How you doing, Darren? Salut, Darren.
Good to see you, man. How you been?
Well, okay.
Oh, the horses out there.
Les chevaux sont là-bas?
Yeah, I got two in here and now.
Ouais, j'en ai deux ici et un là-bas.
Can we go in there and just sit?
On peut rentrer et s'asseoir
dans la sellerie.
Ici, c'est votre ferme?
Oui,
c'est chez moi.
Born and raised here.
Je suis né et j'ai grandi ici. Je suis ici depuis 77 ans maintenant.
Et c'est quoi cet endroit là dans lequel on vient de rentrer?
C'est là que je garde toutes mes affaires pour les chevaux.
Et tu prépares aussi les fossiles ici?
Oui, plus beaucoup, mais je fais ça depuis que j'ai 10 ans. Et j'aime toujours ça.
Est-ce que vous savez combien de dinosaures ont été trouvés sur vos terres?
Oh, man.
Oh, bon sang.
I lost count long time.
J'ai perdu le compte depuis longtemps.
Well over 100 specimens that had been,
je pense que bien plus de 100 spécimens ont été donnés à l'université.
When I was young,
quand j'étais jeune,
I'd go up there and I said I never,
je ne suis jamais allé là-haut sans trouver quelque chose.
Something.
J'ai toujours trouvé un os, ou parfois même beaucoup.
Et qu'est-ce que vos parents pensaient de cette passion quand vous étiez petit ?
Au début, ça les amusait. Ils étaient assez excités, enthousiastes. Et après un certain temps, ils étaient religieux et...
You know, this idea
la religion et les fossiles, ça ne va pas très bien ensemble. Vous savez, cette idée que la Terre est seulement censée avoir 6000 ans, alors que ces fossiles ont des millions et des millions d'années. Assez rapidement, j'ai dû mettre ma passion de côté. Quand j'ai fini le lycée et que j'ai commencé à travailler à la ferme, je prenais le cheval, je sortais vérifier le bétail. Et alors, je pouvais me faufiler dehors et chercher des fossiles. Mais je devais tout laisser là où c'était parce que mon père ne m'aurait jamais laissé faire. Mes parents ne voulaient pas que je perde de temps avec ça. J'ai mis ça de côté jusqu'à ce qu'ils meurent. Depuis leur décès, je m'y suis remis à fond et j'adore ça. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir le faire.
Est-ce que vous avez déjà été approché par une société privée ?
Ceux qui veulent acheter des fossiles, ouais. Et j'ai carrément dit non, je ne suis pas intéressé. Fin de l'histoire. Je ne comprends pas ça. Quand vous trouvez un petit os de mosasaur, un os isolé, quelqu'un peut l'acheter pour $20 et le poser sur son bureau comme presse-papier. C'est un truc nouveau à avoir. Mais à part ça, je veux dire, dépenser de gros billets pour un animal, je ne comprends pas. Sauf si c'est un musée. Je préfère que ça aille à la science, où tout le monde peut le voir. Et puis vous savez, j'ai assez d'argent pour vivre. Je suis trop vieux pour devenir riche. Ça ne me servira plus à rien.
Qui peut bien dépenser des centaines de milliers, voire des millions d'euros pour s'offrir des dinosaures ? Comme sur le marché de l'art, la plupart des acheteurs veulent rester anonymes. Les exceptions s'appellent notamment Nicolas Cage ou Leonardo DiCaprio. En France, l'un des acheteurs connus est Kléber Rossillon. Son entreprise de sites touristiques exploite plusieurs très grands sites, comme le château de Castelnau en Dordogne, la grotte Chauvet ou encore le musée de Montmartre. Il y a 6 ans, il a acheté pour plus $1 million Cannes, un allosaure très bien conservé malgré son âge respectable, 150 millions d'années. Et il l'a installé sur un autre de ses sites touristiques, les jardins de Marquessac en Périgord. Cannes domine maintenant la vallée de la Dordogne, c'est là qu'on retrouve Julie Pietri.
On a rendez-vous avec Monsieur Rossillon.
Oui, on va vous
appeler. Interception sur France Inter.
Pas du tout.
C'est la première fois.
Oui.
Merci.
Donc ça, c'est pour vous, le plan des jardins, avec un petit descriptif. Okay. Monsieur Rossillon va arriver dans un petit moment.
Et le dinosaure est où ? Parce alors, que nous, c'est le dinosaure qui nous intéresse plus que tout.
Donc nous, on est juste ici au point A, oui, en fait. Et le dinosaure, il est juste là, au point C.
Pas très loin de l'entrée.
Pas très loin de l'entrée. Merci. Sous vitrine.
Bonne journée.
Normalement, il est toujours là.
Et du coup, depuis qu'il est là, votre dinosaure, votre allosaure, il y a des petites figurines à vendre.
Ah oui. On a essayé de faire une petite gamme dinosaure, justement. Après, l'allosaure est compliqué à trouver, hein. Mais voilà, le dinosaure, on en trouve un peu plus. On est plus sur le T-Rex ou autre, mais...
Ça ressemble un peu, non ?
Oui,
un petit peu.
Il y a une ressemblance, ouais. C'est pour ça, on triche un peu.
Et votre prénom, c'est quoi ?
Marie-Pierre.
Marie-Pierre.
Ah, voilà.
Donc voilà, Monsieur Kléber Rossillon. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Alors, on va le voir. C'est le début de notre visite. Je passe devant, le voilà. Il surveille la vallée. Et notre allosaure est un prédateur. Sa mâchoire peut se décrocher comme le font aujourd'hui les serpents, pour avaler des proies énormes.
Je vais juste en profiter pour poser une question s'ils sont d'accord à ces messieurs. Bonjour.
Bonjour.
On travaille pour France Inter.
Oh là là.
Petite curiosité, vous venez ici pour la Lozère ou vous venez ici pour les jardins ?
Non, les jardins.
Ouais. C'est la cerise alors.
Ou la fraise. En Périgord, c'est plus la fraise que la cerise.
J'ai du mal à le trouver en fait. Et finalement, on est bien content de le voir. Il est magnifique.
Sachant que le crâne, il est dans la petite vitrine du bout. Et que nous avons mis une reproduction parce que c'est le plus fragile. Donc dans la petite vitrine du bout, on voit le crâne authentique et de près, on peut le regarder, voilà, de près.
Est-ce que l'on sait si ce dinosaure avait lui-même des prédateurs ?
Ah non, certainement pas. Il était en haut de la chaîne alimentaire. Ah oui, c'était lui. Non, 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 c'était lui le. C'est lui en haut de la chaîne alimentaire. Oui.
Ouais. Parce qu'on n'a pas vraiment l'occasion. Bon, dans les musées à Paris, on en voit, mais ici, là, c'est une belle surprise de le voir. Ouais, ça vaut vraiment le coup, même que des classes d'enfants viennent voir ça directement ici.
Et est-ce que vous avez l'impression que ça a changé quelque chose en termes de fréquentation ?
Nous n'avons pas à Marquessac fait de billet spécial pour aller voir Cannes. Donc, on ne peut pas savoir si l'attrait de Marquessac, qui est quand même extraordinaire par ailleurs, a été amplifié par Cannes. Tout ce qu'on a vu, c'est qu'on a eu plus de visiteurs. On n'a jamais eu autant de visiteurs qu'après l'achat de Cannes.
Et vous envisagez d'en acquérir un autre ?
Je crois que les prix se sont un peu envolés et que finalement, en étant le premier, j'ai fait une bonne affaire.
Il se vendrait beaucoup plus cher aujourd'hui, vous pensez ?
Je pense qu'il se vendrait beaucoup plus cher, mais je n'ai pas l'intention de le revendre.
Certains musées, en parlant de ces prix, regrette de ne pouvoir acquérir maintenant certains dinosaures. Trop cher. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Que les conservateurs de musées prennent leur mal en patience. Parce que, de même que les grands artistes, souvent n'ont pas peint pour les musées. Et finalement, leurs œuvres terminent dans les musées. Un jour, les dinosaures qui se vendent aujourd'hui aux enchères termineront dans les musées parce que ils auront été donnés. Et donc, naturellement, c'est leur destination ultime.
Avoir de la patience, attendre, faire confiance aux acheteurs privés. Les musées n'ont pas vraiment le choix. Et quand le dinosaure vendu est rare, méconnu, et qu'il sort des radars sans avoir été étudié sous toutes les coutures, c'est un petit déchirement pour les paléontologues, aux États-Unis comme en France.
Damien Germain, vous êtes paléontologue ici au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Là, on est-ce que je peux dire, dans la salle des dinosaures ?
Oui, on peut dire qu'on est dans la salle des dinosaures, même s'il n'y a pas que des dinosaures. Hein, c'est quand même un peu le clou de l'exposition. Le fameux Diplodocus et un allosaure et bien d'autres.
Aujourd'hui, si le musée voulait acheter un dinosaure en vente aux enchères, par exemple, ce serait possible ?
Absolument pas. On n'a pas du tout les moyens de rivaliser, à moins de faire appel à des mécènes qui ont de l'argent et qui l'achèteraient à notre place et qui nous le donneraient ensuite. Ça n'arrive pas, en tout cas nous, ça ne nous est pas arrivé pour des dinosaures. C'est un peu un crève-cœur parce que si on y va, on sait très bien qu'on ne pourra pas rivaliser. Le budget d'acquisition, je n'ai pas les chiffres exacts, hein, peut-être quelques dizaines de milliers d'euros. Et donc voilà, on a d'autres choses aussi à acquérir que des dinosaures.
On a rencontré Kléber Rossillon qui a exposé un allosaure dans ses jardins de Marquessac, un site touristique. Lui, il disait en fait, il ne faut pas opposer privé et public parce que finalement, oui, on achète aujourd'hui parce qu'on a les moyens de le faire, mais un jour, ça retournera forcément d'une manière ou d'une autre au musée.
Oui, je suis un peu d'accord, mais en fait, on n'a pas forcément cette certitude. Là, pour l'instant, on ne peut que leur faire confiance. Je n'ai pas de raison de croire qu'ils mentent. Je pense qu'il est sincère. Et que, ben voilà, peut-être que dans d'autres cas, ces spécimens seront revendus à d'autres personnes et que ça sera un cycle sans fin. Et qu'on n'en verra jamais la couleur.
Damien Germain, il y a un dinosaure qui a fait un passage ici qui était issu des fouilles d'une de ces sociétés américaines qui sortent aujourd'hui les dinosaures, Trix.
Oui, Trix, c'est un tyrannosaure hein, qui est venu chez nous en 2018, pendant 4 mois. Oh oui, il était très 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 bien fait. Même autour, voilà, c'était pas juste un spécimen à montrer, il y avait aussi tout un discours scientifique derrière qui était assez pointu et vraiment très intéressant.
C'était combien ? C'était 400 000 personnes en 4 mois ?
Oui, à peu près. Je crois que c'est 340 000 en 4 mois. Je crois que ça équivaut à 2500 visiteurs par jour. C'est énorme. Bah, c'est vrai qu'on se trompe pas. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une exposition dinosaures ici, il y a vraiment beaucoup de gens.
Un discours que j'ai pu entendre pendant ce reportage, c'était de dire si nous, si les sociétés privées, on ne sort pas ces dinosaures, ça restera dans la Terre, personne ne va s'en charger.
C'est un peu vrai, mais à la limite, c'est pas si mal qu'ils restent dans la Terre. On va dire peut-être que dans quelques années, dizaines d'années, on aura plus de moyens et on pourra les étudier. Ah, sauf s'ils sont des fois dans des zones voilà, vraiment soumises à l'érosion et où il peut y avoir du sauvetage de fait. Mais en vrai, pour nous, c'est pas très grave qu'un spécimen reste où il est. Hein, c'est la nature. Hein, il reste dans son milieu naturel, finalement.
Et votre dinosaure préféré ?
Je crois que j'aime bien les petits dinosaures à plumes. Les micro-raptors, les choses comme ça, parce que c'est découvertes assez nouvelles, finalement. On sait quand même depuis un moment que voilà, les oiseaux s'enracinent dans les dinosaures et tout ça, mais ceux qui ont été découverts avec des plumes sont assez fascinants. Après, je peux même aller un peu plus loin. Peut-être que mon dinosaure préféré serait la mésange. C'est très joli, une petite mésange. Hein. J'en vois des fois sur mon balcon et en fait, ce sont des dinosaures. Les oiseaux sont un groupe très particulier de dinosaures.
Vous allez faire monter la cote de la mésange, peut-être aux ventes aux enchères ?
Bah, peut-être. Hein.
Dinosaures, Jurassic Cash, c'était un reportage de Julie Pietri. Prise de son Yann Fressy et Benjamin Thiot. Réalisation Jérôme Chélius, assisté de Martine Messonnier. Mixage Valentin Azon-Zilinski. Un reportage déjà disponible sur franceinter.fr.